Radio Prague International en français, les informations.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à l'écoute de l'actualité tchèque en français sur Radio Prague International. Une actualité au sommaire de laquelle figure tout d'abord l'affaire du nid de cigogne. Le procureur de la République a en effet interrompu les poursuites qui visaient le Premier ministre Andrej Babiš. Nucléaire, l'Autriche réfléchit à porter plainte contre la République tchèque auprès de l'Union européenne. Et puis enfin sport en tennis, il n'y a plus de Tchèques en lice à l'US Open après l'élimination de Karolina Plíšková. Le procureur de la République de Prague a interrompu les poursuites dont faisait l'objet le Premier ministre Andrej Babiš dans l'affaire dite du nid de cigogne, affaire relative au détournement supposé de 2 millions d'euros de subventions européennes pour la réalisation d'un centre récréatif en Bohême centrale. L'information a été communiquée lundi par le site du quotidien Denik N qui se réfère à deux sources informées de la décision. Toujours selon le journal, le procureur a interrompu également les poursuites qui visaient cinq proches du chef du gouvernement. Dimanche, Andrej Babiš s'était dit convaincu que les poursuites seraient interrompues, et ce alors qu'en avril dernier, la police avait recommandé la mise en accusation du Premier ministre. Le vice-gouverneur du Land de Basse-Autriche et l'ancienne ministre de l'Environnement autrichienne n'excluent pas la possibilité de porter plainte contre la République tchèque auprès de l'Union européenne en raison du projet d'extension de la centrale nucléaire de Dukovany en Moravie. L'information a été publiée par le site du quotidien autrichien Courier. Les deux politiques critiquent le fait que le ministère de l'Environnement tchèque ait émis un avis positif sur le projet de construction de à deux nouveaux réacteurs dans une des deux centrales nucléaires existantes en République tchèque. Alors que le nucléaire représente actuellement une part d'environ 35% du bouquet énergétique de la République tchèque, Prague estime que les effets sur l'environnement et la santé de la population de cette extension seront acceptables. La partie autrichienne, qui critique depuis toujours l'exploitation de centrales nucléaires en République tchèque, souhaite savoir quel sera le mode de financement de ces nouveaux réacteurs. Envisager également à la centrale de Temelín pourrait éventuellement pour pouvoir attaquer la République tchèque auprès de la Cour de justice de l'Union européenne. Les prix des biens et services en République tchèque depuis la partition de la Tchécoslovaquie en 1993 ont quasiment triplé, tandis que le cours de la couronne, la monnaie nationale, s'est renforcé de près d'un quart. Tels sont les deux principaux enseignements qui ressortent d'une étude réalisée par la Raiffeisen Bank. Avec 100 couronnes placées sous le matelas en 1993, nous n'achèterions plus aujourd'hui dans les magasins tchèques qu'un tiers des biens par rapport à cette époque, a expliqué une analyse de la banque. Mais si nous voulions dépenser ces 100 couronnes à l'étranger, alors nous aurions à peu près le même panier de marchandises qu'en 1993, car à l'étranger, les prix ont plus ou moins augmenté au même rythme que celui auquel s'est renforcée la couronne. Culture, premier film tchèque en compétition officielle au Festival international de Venise depuis 25 ans. Le long métrage intitulé Nabarvené Ptache du réalisateur Václav Marhul est présenté aux médias ce lundi avant sa première officielle prévue ce mardi. Le film est inspiré du roman éponyme intitulé L'oiseau bariolé de l'écrivain américain d'origine juive polonaise Jerzy Kosinski. 21 films, parmi lesquels notamment Le J'accuse de Roman Polanski ou encore Ad Astra de James Gray, figurent cette année en compétition officielle à la Mostra, une Mostra dont la 76e édition se clôturera samedi. On passe au sport et au tennis. Pour la première fois de cette saison, aucune joueuse tchèque ne figurera dans le tableau du simple dames d'un tournoi du Grand Chelem lors de la deuxième semaine. Dernière joueuse en lice à l'US Open, Karolina Plíšková a en effet été battue par la Britannique Johanna Konta, 16e mondiale en 3-7 en 8e de finale dimanche, et ce sur le score de 7-6, 3-6, 5-7, finaliste à New York en 2016 et actuelle 3e mondiale. Plíšková devra ainsi encore attendre à 27 ans avant éventuellement de remporter le premier Grand Chelem de sa carrière. On termine ce bulletin avec un mot de météo. Après un dimanche orageux et un lundi marqué par la grisaille, le soleil est de retour sur l'ensemble du territoire. Ce mardi, jour de la fête des Bronislaves, les nuages disparaissent au fil de la journée pour laisser place à un ciel clair. Les températures varient entre 19 et 23 degrés. Quant au soleil, il se lèvera à 16h16 et se couchera à 19h40. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information qu'a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. On retrouve maintenant Alexis Rosenzweig. Alexis qui nous accompagne pour la suite de ce programme. Très bonne écoute.
Faits et événements en République tchèque.
Chers auditeurs, bonjour, Radio Prague International, le programme en français continue. Merci à Guillaume Narguet pour les informations. Au sommaire aujourd'hui, évidemment, la rentrée des classes. Et oui, les pauvres enfants, enfin les pauvres, pas tous, car en République tchèque, il faut savoir que beaucoup de jeunes enfants âgés entre 6, 7, parfois 8 ans ne vont pas au CP et restent en grande section de maternelle. Vous en saurez plus dans un instant, ce sera juste avant de parler sport et judo. Avec l'exploit réalisé par le judoka tchèque Lukáš Krpárek, nouveau champion du monde dans la catégorie des plus de 100 kilos. Et dans la deuxième partie de cette émission, nous rediffuserons une émission passionnante consacrée aux bookshops, aux antiquariats, les magasins de livres d'occasion de République tchèque. Très bonnes écoutes à toutes et à tous. Ils étaient près de 137 000 enfants en âge d'aller à l'école au printemps dernier. Aller à l'école en CP, appelé en République tchèque la première classe. Mais en réalité, environ 20% de ces enfants n'intègrent finalement pas la První třída, ce CP, car leurs parents ont décidé de retarder d'une année leur entrée à l'école primaire. Coup de projecteur sur ce phénomène rare appelé odklad en tchèque, un phénomène quasiment inexistant dans d'autres pays et qui est tantôt critiqué, tantôt défendu par les pédagogues et les psychologues. Magdalena Hrozinková.
Důvod byl jednoduchý, protože on je narozen 2.7.
Notre fils a eu 6 ans début juillet. Toutefois, nous avons décidé de prolonger d'une année supplémentaire sa scolarité à l'école maternelle à Prague, car il aurait été parmi les plus jeunes du CP. Les autres enfants inscrits cette année dans notre école nous paraissaient, à ma femme et moi, beaucoup plus mûrs, surtout physiquement. Beaucoup d'entre eux ont déjà 7 ans. Alors même si notre fils a passé tous les tests psychologiques avec de très bons résultats, il nous paraissait plus lent et moins bon en sport que ses futurs camarades de classe. Nous n'avons pas voulu prendre le risque de le voir être le dernier de sa classe.
L'expérience de Freddy Valverde, lui-même d'origine hispanophone, est partagée par beaucoup de parents tchèques. Leurs enfants en âge d'intégrer le CP s'y retrouvent fréquemment avec des camarades qui ont un an de plus. Parfois, l'écart d'âge entre les petits écoliers peut être encore plus important. Une situation déstabilisante pour les parents face à laquelle Freddy et son épouse ont réagi en profitant eux aussi de cette possibilité offerte par la législation tchèque, celle de retarder d'une année l'entrée à l'école de leur enfant. Soyons clairs, en République tchèque, les enfants accèdent à l'école élémentaire lorsqu'ils ont fêté leur 6e anniversaire. Autrement dit, seuls les enfants nés avant le 31 août 2013 peuvent entrer en CP à la rentrée 2019. Lorsqu'ils sont nés, ne serait-ce que le 1er septembre, ils sont obligés d'attendre un an pour être scolarisés, ou alors leur entrée en CP est considérée comme anticipée et doit être recommandée par un psychologue. En revanche, les parents des enfants de 6 ans peuvent donc demander un report de son entrée à l'école à la rentrée suivante. Une possibilité dont ils profitent dans des situations diverses, en cas de déménagement par exemple, ou de maladies graves dans la famille, ou encore, comme nous l'avons déjà dit, lorsque l'enfant ne leur semble pas prêt à la scolarisation, émotionnellement ou intellectuellement. Petra Juhanova est maîtresse dans une école maternelle du 2e arrondissement de Prague. Selon son expérience, le report de la scolarisation des enfants de 6 ans est justifié dans la majorité des cas et il ne s'agit pas là d'une simple lubie des parents. Nous collaborons avec un cabinet de psychologie pour évaluer en janvier de chaque année si les enfants en dernière année de maternelle sont prêts à être scolarisés. Ils passent des tests de base et s'il s'avère que l'enfant a des difficultés dans tel ou tel domaine, nous consultons la situation avec les parents qui peuvent ensuite aller voir le psychologue avec leur enfant pour des tests plus détaillés. Souvent, ces enfants ont des problèmes au niveau de la motricité graphique, de l'audition ou encore de la perception visuelle. Entre janvier et avril ou mai, où se passent les inscriptions, nous avons encore le temps d'améliorer certaines choses. Nous pouvons recommander aux parents de retarder d'un an l'entrée au CP de leur enfant, mais c'est toujours à eux de décider.
En 2014,
environ 21 000 enfants âgés de 7 ans et plus fréquentaient les classes de CP dans les écoles tchèques. Au cours des 5 dernières années, leur nombre a augmenté à 25 000. Présidente de l'association des directeurs des écoles primaires, Hanna Stiblova, confirme ces tendances. Je cite, « Les enseignants ont du mal à composer des classes de CP lorsqu'ils ont des élèves de 5 ans qui ont commencé leur scolarité de manière anticipée, puis des enfants de 6 et de 7 ans », constate-t-elle. Pour sa part, Petra Johanova n'a pas remarqué une hausse flagrante d'enfants qui entrent à l'école plus tard que prévu. Dans son école maternelle, spécialisée dans l'intégration des enfants ayant un handicap physique ou mental, une dizaine d'enfants sur un total d'environ 40 écoliers voient chaque année retarder leur entrée en CP. Soit ils restent à l'école maternelle, soit ils fréquentent des classes d'adaptation qui existent dans certaines écoles élémentaires. Enseignante en maternelle depuis plus de 30 ans, Petra Johanova a toutefois vu apparaître ces derniers temps certains problèmes qui compliquent, estime-t-elle, la préparation des enfants à l'école.
Ce que j'observe notamment, c'est une montée en flèche du nombre d'enfants qui souffrent de troubles du langage. Les parents sont assez indifférents à ce sujet. Ils sont peu nombreux à suivre un traitement avec leur enfant, que ce soit ici à l'école maternelle ou chez un orthophoniste. Les troubles du langage et les problèmes de motricité sont liés au fait que les enfants n'ont pas assez d'activité physique. Ce que j'observe aussi, c'est que beaucoup d'enfants ne savent pas utiliser les ciseaux, travailler la pâte à modeler ou tenir correctement un crayon. Les parents et les grands-parents passent moins de temps avec les jeunes enfants que dans les années 80, par exemple. Cela est dû à un autre rythme de vie et de travail. Aussi, nous accueillons de plus en plus d'enfants d'origine étrangère. Souvent, ils ne peuvent pas être admis au CP à l'âge de 6 ans car ils ne parlent pas suffisamment bien le tchèque.
Toujours est-il que l'entrée à l'école des enfants qui fêtent leur 6e anniversaire pendant les mois d'été qui précèdent la rentrée scolaire est fréquemment déconseillée aux parents par les maîtresses des écoles maternelles tchèques en raison de leur prétendue immaturité. Cela concerne en particulier les garçons, considérés souvent comme trop lents, peu concentrés ou trop joueurs. À cela s'ajoute la peur de certains parents d'un échec scolaire qui puisse marquer l'enfant, estime-t-il, pour le reste de sa vie. Dans cette situation, de nombreux spécialistes tchèques et étrangers posent plutôt la question de savoir comment rendre les programmes éducatifs accessibles et adaptés à tous les jeunes enfants. Car comme le constate par exemple la psychologue américaine Deborah Stipek dans l'un de ses articles accessibles sur Internet, je cite « Tous les enfants, quel que soit leur âge, sont prêts à apprendre. La question importante n'est pas de savoir si un enfant est prêt à apprendre, mais plutôt ce qu'il est prêt à apprendre. »
Après l'éducation nationale, nous passons désormais au sport avec l'exploit sportif réalisé ce week-end. Et c'est en judo, déjà titré à plusieurs reprises chez les moins de 100 kilos. Le judoka tchèque Lukáš Krpálek est parvenu ce week-end au Japon à devenir champion du monde dans la catégorie reine, celle des rois du tatami qui dépasse le quintal sur la balance à moins d'un an des Jeux Olympiques. Un duel magistral est en train de se profiler avec ce qui pourrait être une affiche tchéco-française de rêve entre le nouveau champion du monde et le monstre sacré de la catégorie, j'ai nommé Teddy Riner. L'exploit réalisé samedi par Lukáš Krpálek a été d'autant plus remarqué qu'il est parvenu en finale à prendre le dessus sur le japonais Hisayoshi Arasawa devant son public sur le tatami de la mythique Nippon Budokan de Tokyo. Après environ 8 minutes de combat intensif, ce dernier, épuisé et malmené par le Tchèque, a écopé d'une logique troisième pénalité, Troisième pénalité synonyme de défaite, synonyme également de médaille d'or pour celui surnommé par son entraîneur le monstre intelligent et par d'autres l'albatros ou l'arbre. On écoute Lukasz Karparek.
C'était mon plus grand rêve et j'ai réussi à le réaliser. J'ai remporté les titres de champion d'Europe et champion du monde dans deux catégories différentes. Maintenant, je veux finir en beauté avec les Jeux Olympiques et évidemment avec le championnat d'Europe à domicile. Donc il me reste encore deux rêves à réaliser.
Les championnats d'Europe de judo se dérouleront effectivement à Prague à la fin du mois d'avril prochain et il ne fait guère de doute qu'une très grande partie de la foule réunie pour l'occasion à l'O2 Arena de Prague va venir acclamer et soutenir le Tchèque de bientôt 29 ans. Ce sera pour Lukasz Karparek l'occasion devant son public d'une ultime répétition avant la grande échéance de l'été et le rêve olympique dans la même Nippon Budokan où il s'est entraîné pendant des centaines d'heures au début de sa carrière.
Pour moi, c'est un véritable conte de fées. Cette carrière et ce parcours, même si je ne devais plus rien gagner à partir de maintenant, je pourrais m'en satisfaire. Mais je peux promettre à mes fans que je vais tout faire pour décrocher d'autres médailles, en tout cas au moins une médaille olympique.
En l'absence de Teddy Riner, Karparek, roi des poids lourds, Karparek profite de l'absence de Teddy Riner ou encore ce que les mondiaux ont appris à Teddy Riner sur ses adversaires. La presse française, si elle saluait la performance du Tchèque ce week-end, mettait forcément en avant la non-participation du monstre sacré des poids lourds de cette dernière décennie. Teddy Winner Riner se consacre à la préparation des JO pendant les prochains mois. Et il n'aura pas manqué d'observer en détail les prestations de ses futurs adversaires, à commencer par celle du Tchèque victorieux, bien que fraîchement débarqué dans sa catégorie. Ça, c'est le bruit de la victoire lors de leur premier et unique combat au Grand Prix de Montréal en juillet dernier. Le Guadeloupéen Teddy Riner avait réussi à battre le natif de Jihlava Lukasz Karparek en demi-finale, mais très difficilement sur Wazahari au terme d'une âpre bataille. Et si les deux athlètes sont épargnés par les blessures au cours des prochains mois, il y a de quoi se réjouir vraiment beaucoup du spectacle que pourrait offrir du 25 au 31 juillet 2020 un tournoi olympique organisé dans le temple du judo où les judokas japonais auront également à cœur de briller. Après le sport, le réconfort, et devant le succès remporté par cette émission, nous rediffusons cet entretien réalisé il y a peu par Pierre Maignan avec l'historien français Alain Soubigou à propos des antiquariats. Qu'y a-t-il de plus agréable que de flâner dans ces antiquariats? C'est ainsi que sont appelées en tchèque les librairies de livres d'occasion. Pour flâner à la recherche de la perle rare, du livre qu'on rêve de lire et de posséder dans sa bibliothèque, en fait, il n'y a pas grand-chose qui dépasse ce plaisir, selon Alain Soubigou, qui a fait l'honneur d'une nouvelle visite dans les studios de Radio Prague pour évoquer cet univers des antiquariats qui, malgré les difficultés, reste bien vivant à Prague.
Chapitre de l'histoire.
Alain Soubigou, merci à nouveau d'être dans notre studio à Radio Prague. Vous le connaissez bien. Quand vous êtes à Prague, il y a un endroit que vous aimez fréquenter, ce sont les antiquariats. Est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs ce que sont ces antiquariats?
Alors, les antiquariats, ce sont ces magasins où l'on trouve des livres d'occasion. Alors, le tout venant, mais aussi pour les chercheurs comme moi, une mine de sources, et en particulier de livres sur la période de l'entre-deux-guerres. Puisque, évidemment, nous avons besoin, pas seulement pour fournir des sujets d'examen à nos étudiants, mais aussi pour renouveler la science historique. Nous avons besoin de trouver des livres et on peut les trouver certes en bibliothèque. Enfin, quand ils sont disponibles, ils ne sont pas forcément disponibles. L'époque communiste a été fatale à un certain nombre d'entre eux. Et c'est toujours un plaisir d'aller faire un tour dans les antiquariats. Alors les antiquariats ont subi des avanies depuis, on va dire, 1989. Ils étaient très nombreux, ils le sont beaucoup moins.
Alors vous allez nous dire pourquoi, mais est-ce que vous pourriez préciser peut-être pour nos auditeurs qui, s'ils sont en France, connaissent peut-être mieux les bouquinistes, qui seraient l'équivalent français des antiquariats, où serait selon vous la différence?
Alors je fréquente à Paris, bien sûr, les bouquinistes des Quai de Seine, hein, avec leur fameuse boîte verte, qui sont, sachez-le, une concession du domaine public par la mairie de Paris, et ils payent un droit d'utiliser ces boîtes qui, de nos jours, sont bien entendu pourvues du téléphone, reliées à Internet, et d'ailleurs une partie d'entre eux vendent leurs livres sur Internet. Les antiquariats pragois ont un charme. Ils ont un côté suranné, certains d'entre eux sont évidemment sur Internet, mais aller fréquenter directement les livres, les croiser, les rencontrer en quelque sorte comme des personnalités, discuter aussi avec les propriétaires des antiquariats permet parfois de dénicher des livres qui sont sous le comptoir. Il y a toute une poésie.
Vous avez vu évoluer ces antiquariats depuis que vous les fréquentez. Vous avez le sentiment que ces magasins, ces librairies d'occasion disparaissent. Quelles sont les raisons de cette disparition? Il est vrai que peut-être qu'Internet joue aussi un rôle. On trouve maintenant des bouquinistes, des antiquariats qui vendent essentiellement uniquement sur Internet.
Oui. Alors, il faut partir quand même de quelque chose, un phénomène que n'importe qui circule dans le métro dans Prague s'en rend compte, c'est que les Tchèques lisent beaucoup. Donc ils achètent beaucoup de livres, ils les revendent pour s'en acheter d'autres, et c'est ça qui justifie qu'il y a un grand nombre d'antiquariats ou qu'il y a eu un grand nombre d'antiquariats à Prague. Ce qui est arrivé que, tout de même, c'est que évidemment le prix de l'allocation du mètre carré à Prague a un peu évolué depuis 1989, et cette activité avec une rotation lente des fonds, c'est pas tout à fait le même flux que dans une librairie de livres neufs, fait que la rentabilité est beaucoup plus tangente, beaucoup plus précaire. Et j'ai vu disparaître sur la vingtaine d'antiquariats que j'avais l'habitude de fréquenter dans les années 90, il n'en subsiste plus qu'une demi-douzaine, avec des fonds intéressants, et avec lesquels j'ai conservé des liens de sympathie qui leur font mettre de côté des livres qui pourraient m'intéresser. Alors moi, j'ai un tropisme pour l'entre-deux-guerres, pour la période de Massarik, de Benesch, et je trouve mon bonheur. Il est très rare que ces journaux à Prague, je ne trouve pas dans l'un des 5 ou 6 antiquariats que je fréquente toujours assidûment, un livre, pas tellement en ce qui me concerne dans une perspective de recherche d'autographe, qui est aussi un sport qui existe en tout cas en Europe de l'Ouest, mais vraiment pour trouver des livres qui me permettent de renouveler le savoir historique.
Il faut dire à nos éditeurs que dans ces antiquariats, il y a beaucoup de livres en tchèque, mais il y a aussi souvent des rayons de livres en langue étrangère, et qu'on peut trouver des livres français, parfois relativement récents, pour quelques dizaines de couronnes. On peut faire des trouvailles assez intéressantes. Quelles seraient, vous, les trouvailles dont vous avez été le plus content lors de vos pérégrinations dans les antiquariats de Prague?
Le plus miraculeux, c'est un très gros livre dont je me suis beaucoup servi pour mon doctorat et puis depuis. C'est un album Všech reprezentantů, un album de tous les représentants de la vie publique, disons de tous les notables de la République, en 1929. Un gros album très lourd, très difficile à manier, avec une belle reliure en cuir qui l'a fait conserver, et que j'ai réussi à me procurer dans un antiquariat qui n'existe plus, à côté du Sénat, sur la place Wallenstein, à Malastrana. J'ai trouvé à peu près tous les livres de Masaryk que Masaryk a publié. Alors j'en ai retrouvé aussi parfois sur Internet, mais le plaisir de trouver un livre rare de Masaryk, puisque vous saviez que une bonne partie des livres de Masaryk ont été abîmés, voire détruits à l'époque des nazis. Beaucoup ont été abîmés ou détruits à l'époque des communistes. Et donc retrouver des livres comme ça qui ont survécu à toutes les avanies et toutes les censures, c'est un vrai plaisir.
Vous disiez que vous fréquentiez 5 ou 6 antiquariats à Prague. Quels seraient vos préférés et pourquoi?
Ah, c'est vraiment une question piège. Mais pour vos auditeurs, je peux signaler quand même quelques-uns de mes antiquariats préférés. Alors près de l'université, il y en a un dans la rue, près de ce que les Pragois appellent le Parlement, Parlament, c'est-à-dire le bar où tous les professeurs de l'université, la faculté de philosophie, vont s'abreuver après les cours. Juste à côté, il y a un très bon antiquariat qui permet de se procurer beaucoup de livres. Je connais encore toute une série d'antiquariats, mais je vais m'arrêter sur mon préféré, avec lequel j'ai noué des relations depuis de longue date. C'est celui qui se trouve à Oujezd, à côté de Malastrana, tout près de la station de tramway. Et le vieux monsieur qui le tient a toujours des pépites à procurer à ses acheteurs. Donc je suggère à nos auditeurs, lorsqu'ils passent à Prague, d'aller faire un tour dans au moins ces deux-là, mais il y en a d'autres.
Si ces antiquariats sont aussi populaires, parce que malgré tout, il en reste un certain nombre, et pas seulement à Prague, on en trouve aussi dans les villes de province en République tchèque, est-ce que c'est pas lié aussi à la structure du marché de l'édition en Tchéquie, à savoir que pour trouver certains livres qui ont été édités à une certaine période, on est obligé de passer par ces antiquariats parce qu'ils ne sont pas réédités par la suite.
Vous avez raison d'attirer l'attention sur... d'un côté le dynamisme et de l'autre la précarité des éditeurs tchèques. Dans les années 90, il y avait 1200 maisons d'édition, disons en République tchèque, quasiment la moitié d'entre elles ont disparu. Et évidemment, les catalogues qu'ils avaient commencé à garnir, et au-delà des livres qui ont été publiés, que ce soit à l'époque communiste ou dans l'entre-deux-guerres, bien, ils ont été édités une fois et puis rarement réédités. Et donc, c'est le seul moyen de se procurer les livres. Le circuit des antiquariats permet aussi de redonner une vie dans la logique écologique actuelle où il faut travailler dans le durable. Ces livres trouvent de nouveaux lecteurs parce qu'ils sont redistribués. Ils ne se perdent pas, voire ne sont pas détruits, précisément parce qu'il y a ce réseau d'antiquariats. Et vous avez raison de signaler les antiquariats de province. Je connais un certain nombre de villes de province où j'ai plaisir aussi à aller voir les ressources des antiquariats. Et, par exemple, j'ai eu le plaisir de découvrir mes propres livres disponibles dans des antiquariats de province alors qu'ils n'étaient plus disponibles à Prague. Oui, il y a toute une poésie, mais aussi une efficacité. Ça correspond aussi aux moyens de beaucoup des lecteurs tchèques qui n'ont pas toujours les moyens de s'acheter la version neuve. Et un livre qui passe au bout de 3, 4, 5 ans dans le réseau des antiquariats permet d'élargir le lectorat. Ça vient du grand attrait des Tchèques pour la lecture. Dès qu'on circule dans le métro, on voit énormément, beaucoup plus qu'à Paris, beaucoup plus que dans d'autres villes d'Europe, des lecteurs de livres, de vrais livres, pas seulement des revues, mais de vrais livres. Donc voilà, les antiquariats permettent de redonner une deuxième, troisième, quatrième, cinquième vie à des livres qui sinon peut-être iraient moisir dans des greniers.
Merci beaucoup Alain Soubigou et on espère que ça a donné des envies à nos auditeurs, par exemple d'aller chercher, fouiller dans les antiquariats pour trouver vos livres à l'occasion.
Ne manquez pas parce qu'on se fait plaisir un peu de frais.
Cet entretien réalisé par Pierre Maignan avec Alain Soubigou est à retrouver sur notre site internet www.radio.cz. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Facebook, sous notre nouveau nom Radio Prague International, Radio Prague International en anglais. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je vous souhaite une très belle semaine où que vous soyez dans le monde.